L'Église de la Victoire du Québec vous présente un message de foi et de victoire par le pasteur Joel Spinks. Nous prions que vous recevrez la révélation qui vous permettra de découvrir et de saisir la vie abondante prévue par Dieu pour ses enfants.
Ce matin, je vais vous apporter un message que le Seigneur a déposé sur mon cœur. Et je crois que c'est un message vraiment important pour nous, localement ici. Mais je crois, au-delà des quatre murs de cette maison, ce message doit être vraiment proclamé. C'est un message important. On vit dans des temps de transition dans l'Église, avec un grand E. Et c'est pas une transition pour le bien, c'est une transition pour le mal. C'est une descente vers vraiment une bassesse comme j'ai jamais vu dans le corps de Christ. Et puis, ce matin, je vais vous apporter un message et je vais vous dire le titre plus tard parce que j'aimerais ça que vous restiez avec moi au début. Mais ce qu'on veut faire, on veut vraiment aujourd'hui revenir à la parole de Dieu et voir ce que Dieu dit à son église aujourd'hui. C'est un message qui risque de déranger plusieurs personnes. Je risque de me créer des nouveaux ennemis. Mais Dieu m'appelle à vous prêcher ce que je vais vous prêcher ce matin. Et puis, ma prière, c'est que vous puissiez vraiment croire la parole de Dieu et non la parole de l'homme. Amen. Parce que notre autorité, quand on est un enfant de Dieu, notre autorité, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est notre unique autorité. C'est ça qui fait la différence entre un enfant de Dieu et quelqu'un dans une religion. Quelqu'un dans une religion va avoir une autre autorité qui va s'imposer. Donc, au lieu d'avoir la parole de Dieu seulement, comme nous l'avons, on va rajouter une revue, un livre quelconque, l'autorité d'une personne. Et quand on lit la parole de Dieu, on va lire la parole de Dieu à la lumière de cette personne ou ce filtre. Mais dans cette maison, nous n'avons pas de filtre. Nous avons le Saint-Esprit qui nous enseigne la vérité de la parole de Dieu et notre autorité a toujours été et va toujours demeurer la parole de Dieu. Peu importe les courants dans le corps de Christ, peu importe les choses que les gens peuvent changer et dire, on va toujours demeurer biblique. Amen. Amen. Et c'est ça qu'on va faire ce matin. Et comme je vous dis, je risque de déranger certaines personnes, mais je crois si on proclame la vérité, la parole de Dieu nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ou vous rendra libre. Et ce message a la capacité, si on veut, ou la possibilité d'affranchir plusieurs personnes qui sont prises dans des chaînes religieuses, qui sont liées par des esprits religieux. Amen. Et ce qu'on veut faire aujourd'hui, on veut bannir tout esprit de religion parmi nous, tout esprit religieux, et on veut déclarer dans cette maison que vraiment Jésus est Seigneur, il est l'autorité, sa parole est notre autorité. Amen. Amen. Donc, on va juste pencher nos têtes maintenant, on va remettre ce message en prière. Père éternel, on vient devant toi, Seigneur Dieu. Aujourd'hui, on veut marcher dans tes voies. On veut marcher dans ta parole. On te remercie pour ton onction qui détruit les jougs dans cette maison. S'il y a des personnes ici qui sont liées avec des esprits de religion, au nom de Jésus, nous déclarons dans cette place la liberté. On te remercie que nos amis sur Internet, les amis à la radio, reçoivent également leur délivrance aujourd'hui. On te remercie, Seigneur, qu'il n'y a aucune arme forgée contre nous qui peut prospérer. Mais comme nous avançons dans la vérité de ta parole, Seigneur, je crois que tu libères encore des captifs aujourd'hui même. Et j'ai prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Venez avec moi ce matin dans 2 Timothée chapitre 3, versets 16 à 17. Je vais vous lire des versets que vous connaissez très bien, qu'on a déjà lus ensemble. Mais je crois que c'est important de revenir encore et d'établir les fondements. Si on a ces fondements-là, on est vraiment dans une sécurité. On est dans une sécurité avec les bons fondements bibliques. Dans 2 Timothée, chapitre 3, versets 16 à 17. 2 Timothée 3, versets 16 et 17. Il est écrit, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile. » Dites « utile. » « Pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Le texte que je viens de vous lire, c'est un texte fondamental pour un enfant de Dieu, pour celui qui a fait de Jésus le Seigneur de sa vie. Ça nous dit que toute Écriture, ici, nous parlons spécifiquement de la parole de Dieu que j'ai entre mes mains. Toute Écriture est inspirée de Dieu. Oui, c'est des hommes. On sait que les hommes ont été utilisés de la part de Dieu pour écrire le texte biblique, mais nous savons que l'inspiration venait de l'Esprit Saint. Et ce que nous avons ici entre nos mains, c'est pas juste un livre comme ça qu'on peut acheter à la bibliothèque, à la librairie par exemple, mais non, c'est un livre inspiré. Parmi tous les livres de la planète, ici nous retrouvons la parole de Dieu, la seule parole de Dieu. Amen. Donc ça nous dit, toute Écriture est inspirée de Dieu et utile, pourquoi? Pour enseigner. C'est pour ça que quand vous venez ici dans cette maison, nous vous enseignons la parole de Dieu. Nous enseignons pas ce que quel prédicateur a dit. On va pas sortir autre livre pour vous dire voici ce que d'autres personnes ont enseigné. Ce qu'on prend comme référence, comme nous notre outil de travail, c'est la parole de Dieu. Amen. Pour enseigner, pour convaincre. Moi, je suis pas capable de vous convaincre, mais la parole de Dieu peut vous convaincre de votre état et vous pouvez vous changer. Vous pouvez changer en travaillant, en coopérant avec le Saint-Esprit. Donc, pour enseigner, pour convaincre, pour corriger. Pour corriger des fausses doctrines. Dieu nous appelle à revenir à la parole de Dieu. C'est-à-dire pour corriger, pour instruire dans la justice, dans le bon chemin. Donc, ça se peut, il me semble, d'après la parole de Dieu, ça se peut qu'il y ait des gens qui s'en vont dans une mauvaise direction, n'est-ce pas? C'est-à-dire pour instruire dans la justice. Donc, il y a des gens qui ne sont pas dans la justice. C'est-à-dire pour corriger. Donc, il y a des personnes qui ont besoin d'être corrigées. Amen. Amen. Donc, comment faire? On va utiliser la parole de Dieu pour faire cela. Au verset 17, « Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Si j'ai la parole de Dieu en tant qu'homme de Dieu, je suis capable de vous prêcher la vérité parce que j'ai la vérité entre mes mains. Donc, c'est merveilleux. Et Hébreux 4, verset 12, est écrit, « La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. » Et vous savez, dans notre société aujourd'hui, les gens n'aiment pas quand c'est tranchant. On veut que ça soit bien comme ci, comme ça, faut pas déranger les gens. Ce matin, je peux vous dire, la Bible me dit que la parole de Dieu est vivante, oui, vivante, une parole vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Donc, la parole de Dieu, elle est tranchante, elle sépare entre les ténèbres et la lumière. Amen. Les zones grises avec Dieu, ça n'existe pas. C'est soit la vérité ou le mensonge. Amen. La lumière ou les ténèbres. C'est tranchant et c'est pas populaire, mais comme toujours, mon rôle, c'est pas d'être populaire. Amen. Amen. Mon rôle, c'est pas d'être populaire et d'être aimé. Mon rôle, c'est de prêcher ce que Dieu dit. Et aujourd'hui, si l'Esprit de Dieu vous parle, et mes amis sur Internet, à la radio, si l'Esprit de Dieu vous parle et travaille des choses dans votre cœur ce matin, gloire à Dieu. Rappelez-vous que la Bible dit qu'elle est plus tranchante. Des fois, quand ça tranche, on n'aime pas ça. Mais gloire à Dieu. Et j'ai la foi que les gens dans cette maison, vous allez appuyer ce que je vais vous prêcher ce matin. Ma responsabilité divine en tant que prédicateur est mentionnée et c'est votre responsabilité également en tant que frère et sœur, en tant que croyant. Dans Jude chapitre 1, verset 3, j'ai plusieurs versets ce matin, donc je vous donne les références. Si vous avez le temps, vous pouvez tourner avec moi. Sinon, je vais juste vous lire. Ça dit, nous sommes exhortés à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Nous avons une foi, nous avons une doctrine, nous avons nos croyances selon la parole de Dieu, et cette révélation-là a été révélée, donnée une fois pour toutes. Amen. Une fois pour toutes. On rajoutera jamais un nouveau livre à la parole de Dieu. On rajoutera pas la parole. En fait, c'est un blasphème, c'est un péché, si on rajoute à la Bible ou si on enlève à la Bible. Et vous retrouverez des regroupements religieux qui doivent modifier la Bible pour que leur doctrine puisse sembler biblique. Mais c'est une erreur. Quand on est obligé de changer la Bible pour avoir raison, il y a un problème majeur, n'est-ce pas? Amen. Donc, on est exhorté à combattre pour la foi. Donc, mon rôle, c'est de combattre pour la foi qui a été transmise au sein, on parle ici des enfants de Dieu, une fois pour toutes. Donc, c'est ça mon travail, et c'est votre travail de combattre pour la foi. Quand on est dans un combat, comprenez ceci, il y a de l'opposition. Amen. Si je suis dans un combat pour la foi, et ici on parle de la foi en Jésus et le salut en Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul, on parle ici du message de la grâce, Si je prêche ici le message de la grâce, comment on peut être sauvé en plaçant notre foi en Jésus-Christ et en Jésus seul, par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, c'est notre message, c'est l'évangile de Jésus qu'on prêche. Mais ça dit, on est exhorté à combattre pour la foi. Donc, si je suis dans un combat, moi, je vais répondre à l'appel de Dieu et je sais que Dieu est avec moi dans ce combat-là. Et en même temps que vous êtes également dans cette même situation, vous devez vous affirmer pour les choses qui sont vraies, pour les choses qui sont bibliques. Amen. Et ça se peut qu'il y ait des gens qui vont dire, bien, tu manques d'amour. T'es comme ci, t'es comme ça. Il va y avoir des critiques à votre sujet. À cause, les gens vont mal vous comprendre. Mais on doit vivre avec, on doit avaler notre pilule. Amen. Parce qu'on n'est pas appelé à faire plaisir aux hommes et aux femmes. On est appelé à faire plaisir à Dieu. Donc, on doit combattre pour la foi. Galates 1.8, écoutez bien ceci. Galates 1.8, ça dit, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile, que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, ou dans Louis II, 21, ça dit qu'il soit maudit. En autre mot, il y a un seul message, un évangile, et c'est le salut par grâce qu'on vous prêche en Jésus et en Jésus seul. On ne peut pas être sauvé en plaçant notre foi dans une église quelconque pour le salut. Amen. Si vous placez votre foi dans l'église La Victoire du Québec pour être sauvé, vous faites fausse route, frères et sœurs. Et je sais que vous croyez pas ça, mais je vous le dis, parce que des fois, les gens pensent qu'on parle ici d'une guerre d'étiquettes. OK? On a notre étiquette qui est là. Et puis les gens disent, ah bien là, tu veux défendre ta position. Non, ce que je veux défendre, c'est la parole de Dieu. Je veux défendre la parole de Dieu. Donc ici, c'est pas une guerre de clochers que je vous propose. Je suis en train de vous dire, il y a un chemin et c'est le chemin de la parole de Dieu. C'est la Bible. La Bible, c'est le seul chemin. Et ça nous dit quand même, mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile qui soit pour nous, que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Il y a un évangile et on doit prêcher cet évangile, on doit combattre pour justement défendre ce message-là. Parce qu'on est dans les temps de la fin. Vous savez, on a parlé souvent, on a eu également notre invité Mario Mascotte qui est venu nous enseigner la parole de Dieu à ce niveau-là. On croit, si on est réveillé spirituellement, on va voir que nous sommes dans les temps de la fin. On voit les accomplissements prophétiques partout. Si on écoute un peu la télévision, on est juste réveillé moyennement. Vous allez voir l'accomplissement prophétique. On doit être réveillé. Et si on habite dans ces temps-là, ces temps qui avaient été prophétisés de la part de Dieu, on doit réaliser également que Dieu nous appelle à être vigilants en habitant dans ces moments-là. Dans Ésaïe 56, versets 10 et 11, écoutez bien, il y a un autre type de prédicateur qui dira jamais rien. Mais moi, ce matin, je vais vous dire des choses. Mais je vous montre ici bibliquement pourquoi je le fais. Dans Ésaïe 56, versets 10 et 11, dans la version français courant, ça nous parle ici des bergers en Israël. Ça dit, les gardiens d'Israël sont tous des aveugles. Ils ne remarquent rien. Ils ne remarquent rien. Ce sont des chiens muets, incapables d'aboyer. Ils rêvent, allongés, ils aiment à sommeiller. Ce sont aussi des chiens voraces qui n'ont jamais assez. Et dire qu'ils sont des bergers, qu'ils sont les bergers, ils n'ont aucun discernement. Ils ne suivent que leurs désirs. Chacun d'eux ne poursuit que son propre intérêt. Ici, on voit que ces bergers en Israël n'avaient pas de discernement. C'était des hommes couchés qui étaient là, qui rêvaient, passaient leur journée à sommeiller. Des chiens muets, incapables d'aboyer. Donc, c'était des mauvais bergers, n'est-ce pas? Gardiens d'Israël. Mais Dieu nous appelle, nous, dans cette maison, à... Je ne veux pas dire japper. Mais Dieu nous appelle ici à sonner l'alarme. Nous devons être une maison qui déclare des choses parce que Dieu nous a donné le privilège de pouvoir prêcher l'évangile dans les médias et on sait qu'on est capable d'influencer d'autres églises. Puis on dit gloire à Dieu pour ça, mais c'est notre mandat dans cette maison. On est appelé depuis le tout début. Notre appel, c'est de changer le climat spirituel de la francophonie par la diffusion du message de la foi en Jésus. Amen. Donc, la façon qu'on change le climat spirituel, c'est en déclarant des choses. Oui, on va déclarer la foi en Jésus, mais également, quand il y a un courant de fausses doctrines qui arrive, c'est à nous de s'opposer et de combattre cette chose-là. Amen. Bon. Venez avec moi dans 1 Timothée 4, verset 16 maintenant, s'il vous plaît. Il y a des gens qui vont dire, ah ben là, écoute, on veut marcher dans l'amour, on veut pas combattre quoi que ce soit parce que finalement, ce qui compte, c'est l'amour, c'est l'amour. Et puis l'enseignement, est-ce que c'est vraiment si important? De toute façon, on va arriver au ciel, puis écoute, Dieu, là, il va pas vraiment se préoccuper de nos doctrines, tout ça. Si c'est vrai, cette pensée-là, il y a des textes dans la parole de Dieu qui sont écrits carrément pour rien. 1 Timothée 4, 16, ça dit, « Veille sur toi-même. » Ici, l'apôtre Paul dit à son fils spirituel Timothée, « Veille sur toi-même et sur ton enseignement. » Il me semble que ça semble être important ici. Il me semble que l'enseignement de Timothée, c'est une chose qui préoccupait l'apôtre Paul. « Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. » Voyez-vous notre responsabilité? En déclarant la parole de Dieu, on va se sauver soi-même, parce qu'on va avoir la vérité de la parole de Dieu, et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Tous ceux qui vont vous écouter, tous ceux qui vont nous écouter sur Internet, à la radio, ils peuvent être sauvés à cause de ce message. Sur CD, on va peut-être remettre ce CD-là à des personnes qui ont besoin d'entendre ce message-là. Mais ça dit, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Et dans Actes 20 maintenant, versets 26 à 27, je suis en train d'établir les fondements en ce moment, 1 Timothée 4, verset 16, Actes 20, verset 26 à 27. Actes 20, verset 26 et 27, ça dit, « C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. Je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. » Voyez-vous, ici, l'attitude de l'homme de Dieu, c'est ça. On veut rien cacher, on veut vous annoncer tout le conseil de Dieu. Et Galates 4, 16, maintenant, l'apôtre Paul pose la question, « Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? » C'est la question aujourd'hui que vous devez enregistrer tout au long de ce message. Si je viens vous déranger, je vous pose la question, comme l'apôtre Paul a posé dans Galates 4, 16, « Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? » Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Bon, aujourd'hui, ce que j'ai à cœur, et je viens juste d'établir le fondement pour vous dire qu'on doit prêcher la parole de Dieu, que l'autorité dans cette maison, c'est la parole de Dieu. Il n'y a aucun homme, aucun mouvement religieux qui va s'imposer sur la parole de Dieu. Notre loyauté est exclusive et c'est sur Jésus et sur sa parole. Amen? C'est simple, je viens juste d'établir ça tout simplement. La Bible, c'est notre autorité. Gloire à Dieu pour ça. C'est rien de nouveau, on répète des choses qu'on sait déjà. Mais en même temps, on doit comprendre, présentement dans le corps de Christ, il y a un courant, et c'est une grande séduction des masses, où on est en train de proclamer l'unité dans le corps de Christ. Et moi, je suis le premier à dire, gloire à Dieu, amen. Je crois dans l'unité du corps de Christ, certainement. Mais on doit définir ce qu'est le corps de Christ. On doit comprendre qui est sauvé. On doit comprendre des choses importantes. Qui est mon champ missionnaire et qui est mon frère et ma sœur? On doit comprendre. Parce que supposément, maintenant, le pape invite tous les chrétiens du monde, les chrétiens évangéliques. On doit maintenant accueillir les catholiques comme étant nos frères et nos sœurs. Et une chose importante, on veut les accueillir comme frères et nos sœurs s'ils se repentent et s'ils viennent à Jésus-Christ. Amen. Amen. S'ils reçoivent le pardon de leurs péchés et se détournent de l'idolâtrie et les abominations, absolument, on veut les accueillir. On veut les accueillir. Et en passant, écoutez bien ceci, parce qu'il y en a qui vont arrêter d'écouter la vidéo juste comme ça, là. Je suis pas en train de prêcher les évangéliques. Je suis pas en train de prêcher les évangéliques. Je suis pas en train de prêcher aucune église. Je suis en train de prêcher la parole de Dieu. Écoutez bien, c'est la parole de Dieu que je vous prêche. Et il y a des gens qui vont dire, oui, mais est-ce qu'il peut y avoir des enfants de Dieu à l'Église catholique? Certainement, on peut être sauvé à l'Église catholique, avoir une révélation de Jésus, le salut par grâce, mais on va sortir de l'Église catholique. On ne peut pas demeurer à l'Église catholique dans le milieu de l'abomination, selon la parole de Dieu. Impossible! Impossible! On ne peut pas demeurer dans le paganisme quand on est un enfant de Dieu. Et vous allez voir pourquoi. Je vais vous montrer ça selon la parole de Dieu. Je sais que je dérange des gens ce matin, mais je suis habitué. Comme vous savez, c'est ça notre rôle, c'est ça notre appel. 1 Timothée, chapitre 4, versets 1 à 3. Il y a un courant en ce moment où on est interpellé à accepter les gens de toutes les églises finalement et dire on est tous frères et sœurs et il faut aimer tout le monde. Est-ce qu'on est d'accord qu'on doit aimer tout le monde? Amen. On va aimer le sataniste. Mais on va l'aimer tellement qu'on va lui dire la vérité. On va lui dire la vérité. On aime tout le monde, toutes les religions, tous les pécheurs de la planète, nous les aimons. Mais quand on aime quelqu'un, on ne dira pas à quelqu'un qui s'en va en enfer, c'est beau, continue, et le flatter. On va dire, mon ami, détourne-toi de ton péché et viens à Jésus, celui qui veut te sauver de ton péché. Il ne veut pas te sauver dedans et que tu restes dedans. Amen. Mais on doit vraiment être conscient, présentement, on vit dans un temps d'une grande déception, une séduction. Dans 1 Timothée 4, verset 1 à 3, c'est dit, « L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, dites les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier. » Est-ce que vous en connaissez des églises qui disent ça, que le pasteur, par exemple, ne devrait pas se marier? « Et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. » En fait, Dieu nous appelle à sonner l'alarme aujourd'hui, parce qu'on veut que ces personnes qui sont dans les religions, peu importe le nom de la religion, qui puissent abandonner la religion pour établir une relation vivante avec Jésus. Qu'on mette de côté la religion. La religion enseigne, et c'est toujours la même chose, peu importe le nom qu'on va changer, peu importe le nom de cette religion, c'est toujours l'être humain doit accomplir des bonnes œuvres pour recevoir le pardon de ses péchés. Mais la Bible nous dit le contraire, la Bible nous dit on est tous pécheurs, et on a tous besoin de se repentir de nos péchés et recevoir le salut par grâce, le pardon de nos péchés. Et c'est comme ça on va définir le corps de Christ. Ceux qui sont pardonnés. Les pardonnés, ceux qui se sont donnés à Jésus, qui ont fait de Jésus le Seigneur de leur vie, eux, ils font partie du corps de Christ. Amen. C'est ça le corps de Christ. C'est les enfants de Dieu. Mais on ne peut pas faire partie du corps de Christ si la parole de Dieu n'est pas notre autorité, si on n'a pas fait de Jésus le Seigneur de notre vie. Et comment savoir si Jésus est le Seigneur de notre vie? Bien, notre vie va le refléter. On ne sera pas dans le paganisme. On va sortir de ce milieu-là. On ne peut pas rester dans une place où on est enseigné à faire un culte à Marie et aux saints, parce que selon la Bible, c'est un péché, c'est une abomination devant Dieu. OK, on va continuer. 2 Timothée 4, verset 3. Aujourd'hui, je peux vous dire, j'ai entendu le frère Jimmy Swaggart qui a parlé il y a plusieurs années, il avait prêché justement un message pour aller chercher les catholiques, pour les sauver de leur état. Et puis, il a été critiqué, mais savez-vous de qui? Il s'est fait critiquer le plus. C'était les croyants, les chrétiens qui l'attaquaient. Ils ont dit, tu manques d'amour. Il a été critiqué pour ça. Mais il disait, moi je recevais, le frère Swaggart a dit, je recevais des lettres et des lettres de catholiques qui disaient, merci de nous avoir dit la vérité. Merci parce que là, on a vu la lumière. On s'est détourné de ce paganisme. On s'est détourné de ces fausses choses. Et là, on a compris. Là, on s'est donné à Jésus. On était libérés de la religion. Mais pendant qu'il prêchait la vérité, il a vécu beaucoup d'opposition. Et les églises chrétiennes évangéliques s'opposaient à lui parce que il disait, ben là, tu es en train de déranger notre relation avec ces gens-là. Tu es en train de créer une situation difficile pour nous. Mais en fait, si on aime les gens, là, quand ils sont en train de mourir, on va leur dire la vérité pour qu'ils puissent vivre. C'est de pas aimer les gens, de leur dire, on est correct quand on n'est pas correct. 2 Timothée 4, verset 3, c'est dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Donc, on sait, on vit dans ce temps-là. Dans Matthieu 24, 24, c'est dit, ici ça parle de la période de la grande tribulation, mais on voit déjà ces choses-là se produire en ce moment. C'est dit, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Amen. Donc, la séduction est là. Matthieu 7, verset 21. Et ce que je vous dis en ce moment, là, c'est par amour pour les perdus. C'est par amour pour les perdus. C'est pas par amour pour Joel Spinks, parce que sinon, je dirais rien. Amen. Vous savez, si on dit rien pour déranger personne, on va avoir plus de personnes qui vont nous encourager, qui vont nous supporter. Mais c'est pas ça notre rôle. Notre rôle, c'est de sauver les perdus. Parce que c'est ça que Jésus est venu faire. Matthieu 7, 21. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'est quoi faire la volonté? C'est de prêcher la vérité. On est appelé à prêcher la vérité. 2 Thessaloniciens 2, 9 à 11. Ici, ça nous parle de l'Antichrist. L'apparition de cet impie se fera, en parlant de l'Antichrist, par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent. Là, remarquez pourquoi il y a des gens qui vont être séduits. Remarquez bien là, pourquoi des gens vont être séduits. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Remarquez, ça dit, l'Antichrist va apparaître avec plein de séductions, plein de miracles, tout ça. Et ça nous dit au verset 10, avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Pour eux, la parole de Dieu, c'était pas important. La doctrine, c'était pas important. Faut s'aimer, faut s'aimer, faut s'aimer. Oui, faut s'aimer. Mais avez-vous l'amour de la vérité? Est-ce que l'opinion de Dieu compte pour vous? Est-ce que l'opinion de Dieu, est-ce que Dieu a dit, est-ce que ça compte encore pour vous aujourd'hui? Il y a des gens qui disent, ah ben, moi je vais faire ça à ma façon. Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est pour ça, ce que je vais vous prêcher aujourd'hui, puis les choses que je vais vous montrer, là, si on aime Dieu, on va aimer ce que Dieu a dit. Et quand Dieu parle, on va dire, c'est écrit, c'est ça que je vais faire. Puis si j'ai des fausses doctrines, je vais revenir à la parole de Dieu. Quelqu'un qui dit qu'il aime Dieu, mais qui n'aime pas sa parole, ça ne fait pas de sens. On est dans une société où tout le monde dit, ben moi je veux avoir ma liberté. Ben vous pouvez être libre sur le chemin de la perdition. Mais moi ce que je veux, c'est la vérité. Et je suis libre dans la vérité. C'est la vraie liberté, c'est d'être dans la parole. Bon, maintenant, la séduction de l'unité chrétienne. Écoutez bien, là je vais vous donner le passage que les gens vont employer pour nous parler comment on doit tous être unis. Et je suis d'accord, je me répète, on veut être unis dans le corps de Christ. Amen. On va être unis dans le corps de Christ. Aimer nos frères et nos sœurs dans d'autres assemblées, peu importe le nom de l'Église, si la personne a fait de Jésus le Seigneur de sa vie, qu'il soit à EVQ ou ailleurs, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est qu'on ait vraiment fait de Jésus le Seigneur de notre vie. Il y en a qui vont dire, ouais, mais est-ce qu'un catholique peut être sauvé? Oui, un catholique peut être sauvé, absolument. Mais comme je vous dis, il va sortir de ça. On peut pas rester, puis je vais vous montrer, je vais vous prouver bibliquement. Parce qu'il y a plein de gens qui sont pas d'accord avec moi, puis c'est bien correct, comme d'habitude. Mais on va voir ce que Dieu dit. Puis après, c'est votre choix. Vous faites ce que Dieu dit ou non. Jean 17, versets 20 et 21. Venez avec moi, je vais vous montrer le texte ici qui nous parle de l'unité. On est exhorté à marcher dans l'unité. Jean 17, versets 20 et 21. Jésus a prié, « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Donc la prière, Seigneur Jésus, « Que tous soient un, comme toi, Père. » Vous savez, le Père est dans la vérité. Est-ce qu'on peut être un avec quelqu'un dans le mensonge et dans les ténèbres? Non. Mais est-ce qu'on peut être un avec quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus, être fusionné avec? Oui. Qu'il soit dans notre église ou ailleurs, c'est pas ça qui compte, comme j'ai dit. On peut marcher dans l'unité. Et même s'il y a des différences de doctrine, on peut avoir plein de différences. Mais est-ce qu'on a l'essentiel? L'essentiel, c'est de faire partie du corps de Christ. L'essentiel, c'est d'avoir le message de l'Évangile. Quand on n'a même pas d'unité au niveau de l'Évangile, on peut pas être uni avec quelqu'un comme ça. Écoutez, je ne sais pas si vous me comprenez. Le corps de Christ, c'est quelqu'un, okay? Celui qui fait partie du corps de Christ, c'est quelqu'un qui a réalisé, je suis pécheur, j'ai besoin d'être pardonné de tous mes péchés, je te donne ma vie, Seigneur Jésus, je te donne ma vie, prends ma vie en charge, tu deviens le Seigneur, je déclare, tu es le Seigneur, le maître de ma vie. Je te donne ma vie. Et l'Esprit de Dieu vient m'habiter. Hallelujah. C'est simple. L'Évangile, on est sauvé par la grâce, par le moyen de la foi, ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. C'est ça, c'est simple, l'Évangile. Mais si on dit, tu dois appartenir à telle église pour être sauvé, tu dois passer par l'eau du baptême pour vivre ta vie chrétienne, si on exige plein de choses pour dire, c'est comme ça qu'on est sauvé, on passe à côté. Le corps de Christ se limite à l'Évangile de Jésus-Christ. OK? Donc, moi, je comprends pas pourquoi ça semble être si compliqué. Vraiment, là, le corps de Christ, c'est facile. C'est ça, on a fait de Jésus Seigneur de notre vie. OK, je continue. L'unité en Christ, certainement, mais pas à n'importe quel prix. Pas en reniant l'évangile de Jésus-Christ. On va jamais renier l'évangile. Vous savez, dans notre temps, les gens veulent travailler avec les catholiques contre plein de choses politiques. On n'est pas contre ces gens-là. Mais on les aime tellement qu'on réalise qu'ils sont notre taille missionnaire. Vous savez, là, avec ce que je viens d'entendre récemment, que je trouvais absolument vomissant, là, excusez de parler comme ça, mais vous savez, la taille missionnaire du Québec, là, est déjà toute sauvée, ça a l'air, là, finalement. Parce qu'au Québec, c'est pratiquement carrément tout catholique ici, n'est-ce pas? Au Québec, finalement, bon, c'est ça le réveil. Si les catholiques, c'est les enfants de Dieu puis le corps de Christ, bingo, c'est ça, là, c'est ça le réveil. C'est ça, là. Non, c'est pas ça du tout. C'est pas ça le réveil. OK, je continue. Je suis pas choqué avec vous, là. Je suis choqué contre les mensonges qui s'infiltrent dans le corps de Christ puis où les gens, ils dorment sur la switch, comme on dit. OK, c'est la switch. Bon, je dois voir où est ma taille missionnaire. Les gens que je côtoie, qui ne connaissent pas Jésus, qui n'ont pas fait de Jésus Seigneur de leur vie, si je leur dis « Hey, t'es mon frère, t'es ma sœur », ah ouais, ah, OK. Ils ne sont même pas sauvés? Non. Si je les aime, je vais leur dire la vérité. Luc 12, verset 51. Bon, écoutez, là, il y a tout ce courant-là de l'unité. C'est ça, aujourd'hui, que je suis en train de vous prêcher. Ce courant-là de l'unité au nom de l'amour. L'unité au nom de l'amour. On va voir ce que Jésus en dit. Êtes-vous prêt maintenant, ce matin? Êtes-vous prêt? Est-ce que c'est juste ce pasteur-là fatigant qui vient toujours nous déranger avec des thèmes pour qu'on soit détesté des gens? Ou est-ce que c'est biblique? Bien, ce Jésus qui a prié la prière sur l'unité, remarquez également ce qu'il a dit dans Luc 12, verset 51. Pensez-vous que je suis venu, que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non, vous dis-je, mais la division. Jésus a dit, je suis venu apporter la division. Hein? Comment ça? Pourquoi? C'est une division entre la vérité et le mensonge. Vous lirez le contexte. Ça dit même dans les foyers, peut-être le père va être contre le fils. Pourquoi? Parce qu'il y en a un qui va être dans la vérité et un autre va être dans les ténèbres. Il n'est pas venu pour dire, oh, on est tous beaux, on s'aime tout le monde, tout est beau. Non. Il est venu pour diviser, pour trancher entre la mort et la vie. C'est ça notre job. Mais ça prend un petit peu de courage. Ça prend du courage et on doit mettre de côté le compromis. Amen. Là, je vous pose la question. 2 Corinthiens 6, versets 16 à 17. 2 Corinthiens, chapitre 6, 16 et 17. Si on connaît notre terre missionnaire, on va être tellement rempli d'amour pour ces gens-là. On va les aimer, on va prier pour eux et on va les voir arriver dans le royaume de Dieu. Amen. 2 Corinthiens, chapitre 6, versets 16 et 17. Ça nous pose la question, c'est très important, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Ça ne nous dit pas aimer tout le monde dans le sens qu'on va, dire oui, tout est beau, tout est parfait. Non, ça nous dit sortez du milieu d'eux. Il y a des gens qui disent, ben moi, j'ai fait de Jésus le Seigneur de ma vie, mais je reste dans l'Église catholique. Mais on va voir comment est-ce qu'on peut être dans une Église où on ne prêche pas l'Évangile de Jésus-Christ, où on dit que c'est par les œuvres qu'on est sauvé. Comment est-ce qu'on peut être là? Où on fait des péchés, juste en allant dans l'Église où on commet des péchés. Vous allez voir, selon la Bible, comment est-ce qu'on peut être là? La Bible ne nous dit pas « rester là pour gagner plein de personnes ». Il y a des gens qui disent « ben moi, il faut que je reste là pour gagner des âmes ». La Bible nous dit « sortez du milieu d'eux ». Comment interpréter ce texte? « Sortez du milieu d'eux et séparez-vous ». Ça ne nous dit pas de rester là jusqu'à temps qu'il y ait un réveil au Vatican. Savez-vous ce que je crois? Je vais vous dire, là, aujourd'hui, de toute façon, là, écoutez, j'ai rien à protéger. Moi, je crois, on est dans les temps de la fin. Je crois que l'Antichrist va se révéler prochainement. Et je crois même, possiblement, que le pape va être le faux, le témoin de l'Antichrist. C'est ça que je crois, moi. Oui, absolument. Donc, ça ne nous dit pas rester là jusqu'à temps qu'il y ait un réveil au Vatican. Non, moi, je crois plutôt que le Vatican, selon la parole de Dieu, puis on va le voir ensemble, ça fait partie de Babylone la Grande. Babylone la Grande. Écoutez bien. Mais je vais vous montrer tout ça bibliquement. Ça nous dit « Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. » Romains 16, verset 17. Romains 16, verset 17. L'apôtre Paul dit « Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales. Comment? Au préjudice de l'enseignement ou au contraire de la doctrine que vous avez reçue. Éloignez-vous d'eux. Éloignez-vous d'eux. Ceux qui font des scandales dans le corps de Christ » en déclarant des choses antibibliques, ça ne dit pas « restez avec eux ». Non, éloignez-vous d'eux. On doit se séparer des ténèbres. 2 Corinthiens 6, 17 maintenant. Encore une fois, ici là, écoutez bien, la mode, c'est « faut jamais rien dire pour déplaire à personne. Faut aimer tout le monde. Faut marcher dans l'unité. L'unité, l'unité, ne parlons pas de nos différences. » Un autre verset, vous pourrez méditer là-dessus et comparer, voir avec la pensée du monde populaire dans l'Église aujourd'hui et la pensée de Dieu. 2 Corinthiens 6, 17, ça nous dit, « C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touche pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. » Matthieu 3, verset 12, ça dit, « Il a sa pelle à la main, il nettoiera son aire de battage et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. » Finalement, Dieu va faire un grand ménage. Ça ne nous dit pas du tout de rester dans ces choses-là. Amen. Donc, la question, l'unité avec les perdus. Est-ce qu'on devrait s'unir avec les perdus? Non. Que Dieu m'aide, j'ai pas fini. Amen. Vous savez, si on aime vraiment Dieu, dans Proverbe 16, verset 6, ça dit « par la crainte de l'Éternel, pour une révérence pour Dieu, on se détourne du mal ». On se détourne du mal. Si on a une révérence pour la sainteté de notre Dieu, s'il y a des fausses doctrines, le péché, peu importe, ce qui déplaît à Dieu, si on aime Dieu, on va se détourner du mal. Les gens s'excusent en demeurant dans le péché, s'excusent en demeurant dans des fausses doctrines, s'excusent puis pensent que Dieu voit rien. Je ne sais pas comment on peut penser, mais la Bible nous dit « Par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. » Romains 6, versets 1 à 2. « Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? » On n'est pas appelé à accueillir le péché, les perversions qu'on entend de ce temps-ci. Il dit « Ben moi, je vais accueillir mon péché. » Non, on rejette et on se repent, on se détourne du péché. Amen. OK. Là, si vous êtes là ce matin puis vous dites, écoutez, comment est-ce que je peux être certain d'être dans la vérité? Comment est-ce que je peux être certain, moi, personnellement, d'être dans la vérité? Je vous donne la recette. Jean 17, 17. Moi, ce verset-là me bénit. Jésus a dit, « Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. » C'est pas Joel Spinks qui est la vérité. C'est pas l'Église à Victoire du Québec, la vérité. C'est pas nous autres, la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. Et je dois me soumettre et obéir la parole de Dieu. Jean 14, 6, un autre texte. Ah, c'est intolérant, c'est exclusif. Vous prêchez comme si c'est juste Jésus, le seul chemin. On dirait que vous dites ça. Oui, c'est exactement ça, vous avez bien compris. Jésus lui-même a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » C'est soit que vous croyez Jésus ou vous dites qu'il est un menteur. Mais ce que Jésus a dit, moi, je crois que c'est vrai. Il a dit, je suis le chemin. Je suis le chemin. Il y a un chemin, là. Je suis le chemin. Je suis le chemin. La vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus est l'unique chemin. Je ne suis pas le chemin. Vous n'êtes pas le chemin. Jésus est le chemin. Et un autre verset que j'aime beaucoup, 2 Corinthiens, verset 4, chapitre 4, verset 5. 2 Corinthiens 4, 5. Ici, l'apôtre Paul dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Aimez-vous ça, ce verset-là? Nous, nous ne prêchons pas nous-mêmes. On ne prêche pas qu'on est la fin du monde, que c'est nous autres qui peut. On ne peut pas vous sauver. Je ne peux pas vous sauver. Nous ne prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus le Seigneur que nous prêchons et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Et un autre verset qui vont vous, un autre passage ici qui va vous déranger peut-être, Matthieu 7, verset 13 à 15 maintenant. Pour ceux qui ont le désir d'éteindre la vidéo, si vous ne l'avez pas déjà fait, continuez. Restez avec moi jusqu'à la fin. Vous allez être encouragés vers la fin. Matthieu chapitre 7, verset 13 à 15. Si les gens disent, ah bien, vous êtes assez exclusif, vous pensez que c'est juste vous autres la vérité. Non, je viens de le dire, c'est pas nous autres. On n'est pas la vérité, mais on connaît celui qui est la vérité. Son nom est Jésus. Et Dieu ne nous appelle pas à avoir une religion à propos de Dieu. Dieu nous appelle à avoir une relation avec Dieu. Matthieu 7, verset 13 à 15, il nous dit, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. » C'est facile, on suit la foule à l'abattoir. « Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. » Pourquoi? Parce qu'on vient de déclarer que Jésus est le seul chemin. Resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Là, ce matin, j'ai dit plein de choses. Mais là, on va examiner Babylone la Grande. Quand on parle de Babylone la Grande, quand on étudie un peu l'Apocalypse, on sait que dans les temps de la fin, Babylone la Grande compose, il y a deux compréhensions, si on veut, deux niveaux. Il y a la Babylone la Grande religieuse, donc c'est toute la religion des hommes, ok, toute la religion des hommes, et il y a également sur le plan économique. Mais là, on va se concentrer plus sur Babylone la Grande, juste au niveau de la fornication spirituelle. Vous connaissez le mot fornication spirituelle, ou encore l'adultère spirituel, on n'entend pas nécessairement prêcher beaucoup, mais c'est quoi ça, l'adultère spirituel? L'adultère spirituel, c'est d'avoir un autre message pour le salut, tout simplement. Si je dis, j'enseigne plein de bonnes vérités de Jésus, il y a plein de personnes qui peuvent dire plein de belles choses. Ok, on peut reprendre des passages de la parole, lire des choses, mais si l'évangile que je prêche, c'est autre chose que Jésus et Jésus-Christ crucifié, c'est un autre évangile. Ok? Donc, quand j'ai un autre évangile, on appelle ça l'adultère spirituel, ou si on veut, la fornication spirituelle. Puis là, ça nous dit l'avenir de toute fausse religion. Toute religion, tous ceux qui ont présenté un autre chemin pour le salut, un autre chemin pour être réconcilié avec Dieu, toutes ces religions-là, on peut les mettre dans la même, le même bateau, si on veut, c'est Babylone la Grande. Il y en a des gens qui ont dit, ah, c'est l'Église catholique, et je crois certainement que l'Église catholique fait partie de Babylone la Grande, mais moi, j'inclurais d'autres religions aussi. Tous ceux qui prêchent un autre évangile font partie de Babylone la Grande. Apocalypse 17, versets 1 et 2. Si vous voulez venir avec moi dans l'Apocalypse, chapitre 17, versets 1 et 2, ça nous dit ici, « Puis un des sept anges qui tenait les sept coupes vin, il m'adressa la parole. » C'est Jean qui parle d'ici, en disant, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grands eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. » Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Donc, si on parle de cette religion, si on veut, toutes les religions de l'homme, le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grands eaux. Et Apocalypse 17, verset 5 maintenant, « Sur son front était écrit un nom, un mystère Babylone la Grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. » Mais là, comme je vous ai déjà dit, il y a des gens qui disent, « Ben moi, écoutez, moi, j'ai compris que c'est le salut par grâce, que je peux rien faire pour gagner mon ciel. J'ai compris que c'était gratuit. Mais moi, j'aime ça être à l'Église catholique. J'aime ça. Puis moi, je pense que Dieu va se servir de moi pour sauver plein de gens dans cette Église-là. Dieu peut le faire malgré vous, là, mais c'est une très belle théorie. Mais la Bible me dit autre chose. Et là, il faut arrêter de dire, c'est qui a plus raison, Dieu ou toi? Apocalypse 18, verset 4. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. C'est un manque de pureté spirituelle. C'est une infidélité à la parole de Dieu. Êtes-vous prêt maintenant à passer l'examen pour savoir si vous êtes dans Babylone la Grande? Êtes-vous prêt? Je vais vous poser 9 questions et on va voir là où vous vous situez dans votre foi. 1 Pierre 2:9. Aujourd'hui, on peut se poser la question, qui sont les prêtres aujourd'hui? Qui sont les prêtres? Bien, la Bible nous donne la réponse. Dans 1 Pierre 2:9, ça dit, vous êtes une race élue, une communauté de rois prêtres. Vous êtes, nous sommes tous, frères et sœurs, des prêtres aujourd'hui. Savez-vous pourquoi? Parce que nous avons tous accès auprès du trône de la grâce. On n'a plus besoin de passer par un homme. Amen. On a un accès direct. Quand je veux parler à Dieu, j'ai pas besoin d'aller parler avec un homme. J'ai pas besoin d'aller dans une petite boîte en bois là, puis me confesser mes péchés. Non, je peux aller directement à Dieu. Et j'ai pas besoin de payer 5$ pour allumer des chandelles. Amen. Je peux aller directement à Dieu. Amen. Ça dit, vous êtes une communauté de rois prêtres, une nation sainte, un peuple de Dieu, un peuple que Dieu a libéré pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. Dans Hébreux 4:16, ça dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. J'ai une invitation. Je peux me présenter devant le trône de la grâce. Comment ça? Parce que j'ai été pardonné de tous mes péchés. Je me suis repenti et Dieu m'a vêtu de vêtements blancs. Et puis, je peux être dans sa présence sans passer par un homme, par quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'on est des prêtres. On a accès, puis on peut intercéder aussi pour nos frères et nos sœurs. Maintenant, concernant les pasteurs, êtes-vous dans une église où votre pasteur remplit ces conditions-là, ou votre curé? 1 Timothée chapitre 3, versets 1 et 5. On va voir ce que la Bible dit. Écoutez bien. Ceci, là, en parlant de l'évêque, on parle ici, l'évêque, c'est le pasteur, le berger dans la bergerie. OK? Ici, on va voir ce que Dieu dit concernant le pasteur. Et vous pourrez voir pour ma propre vie si je remplis ce rôle-là. C'est dit, cette description-là. C'est dit, cette parole est certaine. N'est-ce pas merveilleux de savoir que la Bible est certaine? Amen. Moi, j'aime ça. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme. Je suis marié avec Mathilde, j'ai pas Ginette et Jacqueline aussi. Pas polygame, une seule femme. Mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé, sur le plan financier ici. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Ça, là, c'est ce que Dieu dit. Pour être un bon berger, faut avoir une famille en ordre. Ça ne nous dit pas de ne pas se marier puis de dessécher toute notre vie. Ça, c'est pas dans la description. Avez-vous vu ça? Hello? C'est ça que la Bible me dit. Donc, ce qu'on peut voir, Babylone la Grande a une autre conception de la prêtrise. Numéro 2, deuxième question. Qui sont les saints aujourd'hui? Qui sont les saints? Philippiens 1:1, je pourrais vous donner plein de versets. Je vais vous en donner juste un. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. Ici, on voit l'apôtre Paul qui écrit aux saints qui sont à Philippe. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas morts, ils sont vivants. Mais c'est qui ça, un saint? Un saint, c'est quelqu'un qui a fait de Jésus le Seigneur de sa vie, qui a été sanctifié, mis à part pour Dieu, purifié. Je suis un saint aujourd'hui. Vous êtes des saints. Amen. Attendez pas 100 ans pour me déclarer saint. Je suis saint aujourd'hui. Vous pouvez m'appeler Saint Joël. C'est la vérité. C'est la Bible. Écoutez, Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, là, ils écrivent à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe. Ils sont là, sont vivants. Ils parlent entre eux autres. Alléluia. Éphésiens 1:1, je pourrais vous donner une liste. Vous lisez la Bible. Vous lisez juste Le Nouveau Testament, vous verrez, ça se répète partout. Mais là, vous allez dire, mais comment est-ce qu'ils peuvent faire pour ne pas voir ça dans la Bible? C'est facile. C'était interdit de lire la Bible pendant longtemps. On interdisait la lecture de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, c'est la vérité et on voulait garder les gens dans la religion et dans les ténèbres. Et notre rôle, encore aujourd'hui, c'est prêcher la vérité. Pour que les gens soient affranchis de la religion et de la domination des hommes. Amen. Qui sont les saints aujourd'hui? Nous sommes les saints. Amen. Nous sommes les saints. Qui est notre médiateur aujourd'hui? Qui est notre médiateur entre nous et Dieu? 1 Timothée 2:5, ça nous donne la réponse. Ça dit, il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Jésus est le médiateur entre moi et Dieu. Et Jésus est lui-même Dieu, comme on a vu dans d'autres prédications. Donc, est-ce que je devrais passer par Saint, je sais pas, moi j'ai jamais été catholique, je connais pas les noms des saints, sauf une. Sainte Martine, j'ai enregistré ça. Sainte Martine, chez les catholiques, Sainte Martine, c'était une déesse païenne, ok? C'était une déesse Martine. Et puis, la façon que l'Église catholique travaillait, c'est pour gagner des adhérents. Il dit, écoutez, vous n'êtes pas obligé de vous débarrasser de votre déesse, vous pouvez continuer à l'adorer, tout ça, pas de problème, mais on va juste changer de nom, on va l'appeler une sainte. Donc, Martine, la déesse Martine, est devenue Sainte Martine. Et la majorité des saints dans l'Église catholique, ce sont en fait des dieux, des faux dieux. Ce n'est même pas des personnes qui ont existé. La majorité. C'est quelque chose, ça. Et même le chapeau pointu qui ressemble à une tête de poisson, là, du pape, avez-vous déjà vu ça? Et les évêques qui ont des têtes comme ça, là, ça fait comme une tête de poisson. C'est pas pour rien. Parce qu'en fait, c'était des prêtres qui adoraient le dieu poisson Dagon. Et puis, quand ils ont voulu les intégrer dans leur religion, ils ont dit, ben, vous pouvez garder vos petits chapeaux, pas de problème. Ça va faire partie de nos coutumes maintenant. Donc, au lieu de quitter et sortir du milieu du paganisme, on inclut ça dedans, puis tout le monde sont contents. Ça déplaît à Dieu. OK, donc qui est notre médiateur aujourd'hui? Son nom est Jésus. À qui devrions-nous prier, selon la Bible? Sur ma Marie? Non. Jean 16, verset 23, ça dit, Jésus a dit, en vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Amen. Jean 14, 14, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Acte 7, verset 59, il lapidait Étienne, qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Voyez-vous? On a un médiateur, son nom est Jésus. Devrions-nous prier aux défunts, aux morts? Est-ce qu'on devrait prier aux morts? Moi, j'ai été dans un concert, dans le temps de Noël, c'était un beau concert, mais ce que j'ai trouvé triste, c'est que la dame qui chantait une chanson de Noël, elle avait toute une conception de la vie après la mort. Je peux dire ça comme ça. C'est comme si ma grand-mère est décédée. Et là, je disais, ben là, je prie à ma grand-mère qu'elle veille sur nous, qu'elle nous surveille, qu'elle nous protège. Je prie à ma grand-mère. Pendant son vivant, là, ma grand-mère ne pouvait pas veiller sur moi, à moins d'être à côté de moi, puis même là. Pendant son vivant, elle ne pouvait rien faire. Puis quand elle est morte, elle peut encore moins rien faire. Elle est morte, et soit dans la présence de Dieu, puis si elle est dans la présence de Dieu, elle ne veut pas venir veiller sur moi. Dieu il est capable de s'occuper de moi. OK, donc ma grand-mère, elle se repose au ciel dans son nouveau corps glorifié, gloire à Dieu, ou ceux qui sont perdus sont éloignés de Dieu éternellement, dans la Bible nous dit l'enfer. Donc, il y a deux places. Donc, pourquoi ces pensées-là? Je vais prier à ma grand-mère, mon grand-père, mon frère, ma soeur, on ne prie pas aux êtres humains. Pourquoi qu'on prierait quand ils sont morts? Ça ne fait pas de sens. Amen. Puis on va voir, est-ce que c'est biblique, prier aux morts? Ésaïe 8, 19 à 20, c'est dit, « Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. » Donc, on ne prie pas aux morts en faveur des vivants. Amen. L'avez-vous vu dans votre Bible? On prie pas aux morts en faveur des vivants. On prie à Dieu. Deutéronome 18, 10 à 12, ça dit qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits où disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. C'est un péché devant Dieu, prie à Marie, d'interroger les morts. La Bible nous défend. Écoutez bien, vous priez à Marie, vous venez de commettre un péché selon Dieu. Verset 12, « Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. » On ne peut pas faire semblant que ce n'est pas dans la Bible. Puis dit, ben, regarde, il faut s'aimer tout le monde. Non, on va s'aimer en se disant les choses qui sont vraies. Si vous priez à Marie, vous avez besoin d'être délivré au nom de Jésus et renier toute forme de sorcellerie. Parce que c'est ça. J'étais à Trois-Rivières pour une conférence. On a passé sur une rue, j'ai vu ça, c'était une Marie et il y avait comme un genre de dôme, puis c'était écrit « Gloire à Marie ». J'ai vu ça, j'ai dit « C'est un sacrilège, c'est un péché devant Dieu ». Devrions-nous rendre gloire à Marie? Une femme, une simple femme qui a porté Jésus. La mère porteuse de Jésus. Ésaïe 42, verset 8. « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. » Devrions-nous prier des prières par cœur aussi? Peut-être vous avez ça, un chapelet. Matthieu 6, 7, Jésus a dit, « En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. » Dans la tradition, oh, vous avez commis des péchés, OK, mais faites 10, je ne sais pas trop, « Je vous salue Marie », quelque chose comme ça. Là. Faites ça. Là. Mais là, Jésus a dit, « En priant, ne multipliez pas de vaines paroles. Faites-les pas. Comme les païens. » Mais pourquoi pensez-vous qu'ils font comme les païens? Parce que c'est le paganisme encore qui est là, comprenez-vous? Amen. Qui s'imagine qu'à force de paroles, ils sont exaucés. Devrions-nous prier devant une statue? Bientôt, on avait pensé de faire une statue de pasteur Jean. Là. Mettre des petites fleurs devant. Là. Devrions-nous prier devant une statue? Lévitique 26, verset 1, ça dit, « Vous ne ferez point d'idole, vous ne vous élèverez ni image taillée, ni statue, et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figure pour vous prosterner devant elle, car je suis l'Éternel, votre Dieu. » C'est un péché devant Dieu de se prosterner devant une idole. Ah, mais devrions-nous se prosterner devant des hommes et aller donner une bec sur la main du pape? Devrions-nous faire ça? Acte 10, 25, 26. « Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds, se prosterna. Mais Pierre se releva, mais Pierre le releva en disant, « Lève-toi, moi aussi je suis un homme. » Voyez-vous? « Lève-toi, moi aussi je suis un homme. » Sauf que là, Pierre, il dit à Corneille, « Non, non, on fait pas ça. C'est pas correct de se prosterner devant un autre homme comme ça. On fait pas ça, selon Dieu, selon la parole. C'est un péché de le faire. » Vous savez, quand on fait pas ce que Dieu dit, c'est un péché. Apocalypse 22, verset 8-9. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Ici, l'Apocalypse nous parle de Jean qui a eu des visitations, des visions. Il dit, c'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand, juste entendu et vu, je tombais au pied de l'ange. C'est un messager. Ici, c'était juste un homme. Le mot ange, c'est messager. Qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Il dit, adore Dieu, pas les hommes. Adore Dieu. Matthieu 23, verset 9. N'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. On peut se dire, mais comment est-ce qu'on peut passer à côté autant de versets? Si on ne lit pas notre Bible, c'est sûr qu'on passe à côté. Vous savez, la Bible est bonne quand on la lit. Quand on la lit. Quand on la connaît, vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. Là, en terminant, je vais vous lire ici le summum du scandale. Bon, je vous lis un texte ici du pape Boniface VIII, Unam Sanctam. 18 novembre 1302, ex-cathédra. La foi nous oblige instamment à croire et à tenir une seule sainte Église catholique et en même temps apostolique, et nous la croyons fermement et la confession simplement. Et hors, écoutez bien ça, elle, hors de laquelle il n'y a pas de salut ni de rémission des péchés. Donc, en dehors de l'Église catholique, il n'y a pas de péché. Il n'y a pas de rémission de péché, donc il n'y a pas de salut. Comprenez-vous? Hors de laquelle il n'y a pas de salut ni de rémission des péchés. En conséquence, nous déclarons, disons et définissons qu'il est absolument nécessaire au salut pour toute créature humaine d'être soumise au pontife romain. Pour être sauvé, il faut être dans l'Église catholique. Si on n'est pas dans l'Église catholique, on est perdu, nos péchés ne seront pas pardonnés, et on doit se soumettre à un homme, un pape. C'est ça, c'est le catholicisme. Le 28 octobre 1965, Concile Vatican II, volume 1 et 2, page 739. Ça dit, écoutez bien ceci, ça c'est la cerise sur Sunday. La cerise sur Sunday. Dans l'hindouisme, l'homme explore le mystère divin et l'exprime à la fois dans les richesses infinies de mythes. Il cherche la libération de la vie présente par des pratiques ascétiques, la méditation profonde et le cours à Dieu avec amour et confiance. Le bouddhisme, sous ses diverses formes, témoigne de l'influence essentielle de ce monde. Il propose un monde de vie par lequel l'homme peut, avec confiance, atteindre l'état de libération parfaite et atteindre l'illumination suprême par leurs propres efforts ou par un secours divin. L'Église catholique ne rejette rien de ce qui est vrai et saint dans ses religions. L'Église catholique ne rejette rien de ce qui est vrai et saint dans ses religions. C'est pour ça, aujourd'hui, je dois devant Dieu vous apporter ce message, pas parce que ça me fait plaisir. J'aimerais mieux si on lisait juste la Bible, on se conformait tous à la Bible, puis on pourrait juste apprendre les principes spirituels pour avancer. J'aimerais ça juste parler des choses faciles et parler comment Dieu veut bénir votre famille, comment Dieu veut bénir votre travail, toutes les belles choses que Dieu veut faire pour nous. Mais malheureusement, on est dans un monde où il y a de la séduction et où il y a encore des mauvais esprits qui veulent séduire les gens. Mais moi, devant Dieu, je dois m'assurer que les brebis dans cette bergerie ne soient pas séduits. Parce qu'il y a des grands hommes de Dieu dans le monde chrétien évangélique qui se lèvent et qui disent au pape, « Oh, on vous aime, monsieur. Et oui, on l'aime. Et oui, on va prier qu'il soit sauvé. Mais je lui dirai pas en ce moment, « T'es mon frère et mon compagnon de service. » Non, parce qu'en ce moment, t'es dans les profondeurs de l'idolâtrie. Tu vas à l'encontre de la parole de Dieu. T'amènes des masses en enfer avec toi en ce moment. Repends-toi et viens à Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés, pour que tu sois sauvé. Et oui, tu vas rencontrer un saint. Le premier, ça va être moi. Mais voyez-vous, On doit prêcher la vérité. Je veux m'assurer, si vous entendez des choses sur Internet, ça se propage, où des hommes de Dieu disent au pape, c'est bien correct, c'est beau, c'est merveilleux. Dans cette maison, on ne croit pas ça. Dans cette maison, on dit encore qu'on ne fera pas de compromis avec l'évangile de Jésus-Christ. Il y a un salut, c'est un seul chemin, son nom est Jésus. Et si vous voulez faire de Jésus le Seigneur de votre vie, vous pouvez devenir un enfant de Dieu. Vous pouvez vous repentir de vos péchés et être adopté dans la famille de Dieu. On ne vous propose pas une religion, on ne dit pas c'est en venant dans notre église que vous êtes sauvé, aucunement. Mais on dit si vous venez à Jésus, il va faire de vous son enfant. Et puis, ça va nous faire un plaisir de célébrer ça, de célébrer votre nouvelle naissance. Donc, en terminant, j'aimerais ça vous inviter à pencher vos têtes. Je réalise que j'ai dit plein de choses qui ont pu offusquer des gens. Mon cœur, c'est pas d'offusquer. Mon cœur, c'est d'amener la vérité, qu'on soit dans la vérité. Et aujourd'hui, si vous réalisez que vous êtes encore pris dans la religion, peut-être vous êtes encore dans le paganisme. Vous êtes encore dans ces religions qui sont contraires à la parole de Dieu. Dieu vous dit très clairement, c'est écrit dans la parole de Dieu, sortez du milieu d'eux. Aujourd'hui, la question, voulez-vous sortir du milieu de cette fausse religion? Et peu importe les religions, peu importe que ce soit catholicisme ou d'autres religions, aujourd'hui, l'Esprit de Dieu vous dit qu'aujourd'hui même, c'est le jour du salut, c'est le jour où vous devez vous détourner des fausses religions et d'entrer dans une relation vivante avec Jésus. Si une ou plusieurs personnes, en levant la main aujourd'hui, vous dites, j'aimerais ça donner ma vie à Jésus, je veux abandonner la religion pour recevoir aujourd'hui une relation vivante avec Jésus, faites-le simplement en levant la main et je vais prier pour vous. Merci. Gloire à Dieu. Super. Est-ce qu'il y a d'autres personnes ce matin qui veulent faire de Jésus le Seigneur de leur vie? Est-ce qu'il y a d'autres personnes, même sur Internet, aujourd'hui à la radio? Est-ce que je peux vous demander de vous lever maintenant, tout le monde? Chaque personne ici. Je veux juste terminer, là. Je vais vous lire un verset très rapidement, mais c'est le verset, c'est l'Évangile. C'est tellement facile. Écoutez bien ceci. Ça nous dit, Éphésiens 2, 8, « C'est par la grâce que vous êtes sauvés. » Le mot « grâce » veut dire une faveur non méritée. On ne mérite pas l'amour de Dieu. Personne, on ne mérite rien de Dieu. Mais il nous dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Ça veut dire, je vais placer ma foi en Dieu, en Jésus pour être sauvé. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, c'est pas parce qu'on fait ceci ou cela qu'on peut être pardonné, afin que personne ne se glorifie. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus pour de bonnes œuvres. Donc, on est sauvé pour faire des bonnes choses, mais pas parce qu'on a fait des bonnes choses. C'est ça toute la différence. Donc, aujourd'hui, on a une personne qui veut donner sa vie au Seigneur, et j'aimerais ça qu'on puisse tous prier avec elle. Êtes-vous d'accord? On va tous prier avec elle. Elle ne sera pas toute seule à donner sa vie au Seigneur. Et la Bible nous dit qu'il va y avoir un party au ciel. C'est-à-dire qu'il y a une foule d'anges qui célèbre quand il y a une seule personne qui se repent, qui se détourne de son péché. Donc, on va maintenant prier avec foi, comme si c'était pour vous-même. Père éternel, je te donne ma vie. Je réalise mon besoin de toi. Je réalise mon besoin de pardon. Lave-moi de tous mes péchés. Je déclare de ma bouche que Jésus est Seigneur de ma vie. À partir d'aujourd'hui même, prends ma vie et fais de ma vie un chef-d'œuvre pour toi. J'ai prié au nom de Jésus. Amen. En faisant cette prière avec sincérité, vous êtes devenu un enfant de Dieu. Soyez de la bienvenue à la famille de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Gloire à Dieu. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, nous secoue. C'est merveilleux d'être libéré de toute religion, d'être libéré de toute forme d'esclavage, d'être en chemin vers le ciel avec le Seigneur Jésus. Ah, mais est-ce que c'est merveilleux, ça? On n'est pas pris par la religion, on est libéré au nom de Jésus. Dans la liberté des enfants de Dieu, des fils de Dieu. Alléluia. On va chanter un chant, j'aimerais ça qu'on le loue de tout notre cœur ce matin parce qu'on a été libérés. On n'est pas meilleur que personne, comprenez ceci. On n'est pas meilleur que personne. On a juste réalisé que l'homme ne pouvait pas nous sauver. Il n'y a aucun pape qui peut nous sauver. C'est juste Jésus qui peut nous sauver. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Seigneur Dieu, je veux te remercier pour cette réunion. Je veux te remercier, Seigneur Dieu, pour ta parole. Comme c'est écrit, Seigneur, on a une parole certaine. Une parole certaine. Tu ne changes jamais d'idée. Tu nous déçois jamais. Ta parole ne change pas, Seigneur Dieu. Elle est certaine. C'est la vérité. Et on aime ta parole. Et Seigneur, on va se soumettre à ta parole. Et Seigneur, aujourd'hui, on se prépare à vivre encore plus ta gloire aujourd'hui comme jamais auparavant. Je te remercie parce que tu viens de nous équiper ce matin avec plus de versets pour savoir comment prêcher l'Évangile, comment répondre aux questions des gens. Merci, Seigneur Dieu, que chaque frère et sœur ici se remplit de cette parole, va connaître ces versets-là pour savoir comment répondre, comme tu nous dis dans ta parole. Et merci, Seigneur Dieu, que tu visites mes frères et mes sœurs toute cette semaine, comme on va prier, comme on va chercher ta face. Je prie, Seigneur Dieu, que tu nous donnes également des belles portes ouvertes pour des personnes qui sont mûres, qui ont soif, qui veulent te connaître, qui veulent te connaître. Oh, merci, Seigneur Dieu, que cette église grandit avec plein d'âmes nouvelles. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Dieu. Oh, je déclare, Seigneur, sur chaque tête de chaque personne ici, le shalom, rien de manquant, rien de brisé au nom de Jésus. En toi, alléluia, nous sommes bénis.
Merci d'avoir écouté ce message de victoire. Nous espérons qu'il a été une bénédiction pour votre vie spirituelle. Pour de plus amples informations sur le pasteur Joel Spinks ou encore sur l'Église de la Victoire du Québec, visitez le www.evqmedia.com. L'Église de la Victoire du Québec, pour l'amour de la francophonie.